Merci beaucoup, merci Randy de m'avoir invité, merci à Marc également. Donc ce que je vais faire, ce que je propose de vous présenter aujourd'hui, c'est dans un premier temps un panorama en quelque sorte de ce qui s'est fait en France, comment sont nées les études sur le genre et les femmes en France, et ensuite me focaliser davantage sur les études anglophones. Pour ce qui concerne les études sur le genre en France, donc il faut revenir à mai 68. Et alors ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'il y a eu à la fois le mouvement de libération des femmes, mais aussi les révoltes étudiantes. Donc en 68, ce qui se passe, c'est que l'université Sorbonne est fragmentée en 9 universités. Ensuite, il y aura 13 universités autonomes. Et ça, c'est un des premiers points clés, parce que pour les enseignants-chercheurs, il y a deux choses importantes. C'est qu'ils vont participer à la gestion des universités. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des universités interdisciplinaires qui sont créées. En ce qui concerne la spécificité française par rapport à d'autres pays, j'insiste sur le fait que les financements des universités sont faits par l'État. Et ça, ça nous différencie énormément des universités, notamment dans les pays anglo-saxons. Et ça a eu un impact énorme sur le développement des études de genre, puisque nous, les études de genre en France ont été top-down, et il y a eu un mouvement bien sûr bottom-up, mais l'université française est centralisée, très centralisée autour de l'État. En 68, donc il y a une université, donc Paris 8, qui à l'époque s'appelait Vincennes, qui était extrêmement dynamique, où il y avait une effervescence intellectuelle assez remarquable. Il en sort de grands noms, j'en ai noté quelques-uns là au tableau, mais Michel Foucault, Hélène Cixous, Lucie Rigaret, Michel Serres et Gilles Deleuze, pour n'en citer que quelques-uns. À Paris Diderot, il y a eu la création d'une université pluridisciplinaire. Et on a comme grand nom Michel Perrault, Julia Kristeva, Rita Talman, Françoise Bache, Françoise Barret-Ducrot. On note là déjà sur Paris Diderot qu'on a 3 linguistes, 2 anglicistes et une germaniste, hein, Rita Talman et Françoise Bache et Françoise Barret-Ducrot étant anglicistes. Et donc dans ces universités se sont créés des groupes de recherche non officiels. Et dans ces universités, des cours sur les femmes, le genre, l'histoire des femmes. Et il y a eu des cours hors programme qui ont été organisés. Mais j'ai parlé de ces deux universités parce que bon, c'est deux universités qui étaient connues, mais il faut savoir qu'en France, très rapidement, dans les plus grandes villes, il y avait ces groupes de recherche non officiels sur les questions de l'histoire des femmes et du féminisme. Les options étaient un petit peu différentes selon les universités, et on note l'angle d'approche différent en regardant ne serait-ce que les intitulés des groupes. Alors, un groupe qui était très actif, c'était le groupe, le Centre d'études féminines de l'Université de Provence, donc d'ici, le CEFUP, et un groupe qui a été très actif très rapidement, puisque vous voyez qu'il a été créé en 72, avant le GEF, le groupe d'études féministes de Paris Diderot, et avant, par exemple, le CLEF, le Centre lyonnais d'études féministes. Alors, vous voyez, je disais qu'on voyait l'orientation de ces groupes en fonction du choix féminine ou féministe. Ça, vous verrez que ça, c'est important. Mais il y avait des collaborations entre ces trois et d'autres groupes de recherche, parce que ce bulletin, donc le BIF, le bulletin d'information des études féminines, donc était ici, Mais il y avait la participation, donc vous voyez sur le bas, sur l'affiche de gauche, Pénélope, Céphup et Clef. Donc il y avait Pénélope, c'est Paris Diderot. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Et donc le Céphup, ici Université de Provence, et le Clef, Lyon. Et c'est des bulletins qui ont été publiés entre 1978 et 1988. Pour ce qui concerne le BIF, les responsables de publication étaient Monique Grandjean et Gabi Gruge. J'ai écrit ça manuellement, donc je ne suis pas tout à fait sûre du nom. Et donc Pénélope, c'est celui de Paris Diderot, donc il a été publié par Paris Diderot, mais également le Centre de recherche historique de l'HESS. Et le numéro 1 est paru en 79 et le dernier en 1985. Et la responsable de publication était Caroline Rimbaud. Pour ce qui concerne Pénélope, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient organisé une association 1901, loi 1901, pour pouvoir obtenir des subventions. Et y compris des dons, parce que c'est ce que je vous disais, le problème de l'université française, c'est que c'est l'État qui finance, mais pour obtenir des financements, c'est parfois très compliqué. C'est-à-dire, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est pour ça qu'on passe par des associations, loi 1901, de façon à avoir en partie une autonomie financière. Et donc voilà, c'est un des exemplaires de Pénélope. Donc les premières difficultés des féministes ou de ces enseignants qui ont essayé de développer les études sur les femmes et le féminisme, on ne parlait absolument pas de genre à l'époque, ont été confrontées à, d'une part, la difficulté d'imposer leur légitimité. C'est un peu ce dont on parlait hier, c'était qu'à partir du moment où on était féministe, à partir du moment où on faisait des études sur les femmes, on était dans le subjectif, dans le militantisme, et donc quelque chose qui était contraire au travail universitaire, qui, lui, se doit d'être scientifique, théorique et bien sûr objectif. Et donc là, il y a eu cette énorme difficulté. Ensuite, elles étaient confrontées également, je dis elles, parce que j'étais à 99% femmes dans ces groupes, l'antagonisme des groupes féministes militants de l'extérieur qui avaient une peur de la confiscation de la parole par les universitaires. Et donc, il y avait des résistances au sein des associations féministes par rapport à cette inscription dans l'université. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au début des années 80, il y avait des groupes de recherche sur les femmes et féministes dans la plupart des villes françaises. À Vincennes, il y avait donc aussi l'IREF. Il y avait à Toulouse le GRIF, que je n'ai pas mentionné, le groupe de recherche interdisciplinaire d'études des femmes, qui avait été créé en 79. Tout au long des années 70, on a un certain nombre de groupes qui sont plus ou moins non officiels, mais il y a des cours qui ont lieu. Michel Perrault disait qu'il y avait les cours étaient ouverts aux étudiants comme aux étudiantes, mais qu'il était assez difficile finalement pour les étudiants de participer à ces cours parce qu'il y avait une pression, et donc il y avait très très peu d'étudiants. La grande majorité étaient des étudiantes. Le tournant, le premier tournant pour les études sur les femmes, le féminisme, c'est le colloque de Toulouse en 1982 qui a lieu entre le 17 et le 19 décembre, qui était intitulé « Femmes, féminisme et recherche ». Et alors c'est un colloque qui bénéficie de l'aide du gouvernement, gouvernement socialiste. Et ils ont le ministre Chevènement, qui est le ministre de la Recherche, et Yvette Roudy, qui était au ministère du droit des femmes, ainsi que Maurice Godelier, qui était le directeur du département des sciences humaines et sociales au CNRS, se sont associés pour financer un grand colloque donc à Toulouse. Et ce colloque a rencontré un succès énorme. Il y avait 800 participantes. Je dis participantes parce que bon, vous voyez la photo du colloque. C'est une immense majorité de femmes. De ce colloque, il en est sorti 40 articles qui ont donné lieu à un document de 110 pages. Alors, dans un premier temps, c'était, quand on regarde le document, maintenant ça fait drôle, s'il était tapé à la main, enfin la machine, c'était pas automatique. Ce sont des documents passionnants. Cela dit, au dire des participantes, le résultat a été somme toute décevant parce qu'il y a eu une certaine lenteur à institutionnaliser un certain nombre de choses, notamment le problème de l'accréditation des postes. C'est toujours ce système français qui est un système extrêmement centralisé au niveau de l'État. Pour ce qui concerne les cours, les disciplines, c'est assez compliqué. On verra qu'il va falloir attendre quelques années pour qu'il y ait des postes. Parce que le problème, c'est le fléchage des postes. Et aujourd'hui encore, l'un des problèmes fondamentaux, c'est le problème des sections CNU. Mais bon, viendrons. Néanmoins, le colloque n'a pas été un échec total. On a vu qu'il y avait 800 personnes et il a donné lieu à ce qui s'appelait à l'époque une action thématique programmée, qui était d'une durée de 4 ans et qui a été renouvelée. Donc la première action thématique programmée a eu lieu de 83 à 87 et la deuxième 85-89. Pour ce qui concerne la première, il y avait trois axes. Le premier axe, qui était intitulé « Analyse critique de la conceptualisation des sexes ». Donc vous voyez bien qu'on parle de sexe à l'époque, on ne parle pas du tout de genre encore. « Femmes, État, droit et société ». Et le troisième, « Mouvement des femmes, pratique des femmes ». Il y a eu un appel à communication qui a été lancé. Il y a eu 130 propositions reçues et 68 ont été retenues. Alors, à l'époque, l'objectif, c'était de développer l'interdisciplinarité. Et le constat est quand même assez sévère, puisqu'il y a eu d'une part seulement 4 projets en sciences. Donc l'immensité des projets proposés sur les 130, sur les 68 retenus, il n'y en avait que 4 en sciences, mais il y a eu très très peu de sujets en sciences et dites dures, et seulement 6 projets interdisciplinaires. On voit bien le problème auquel on est confronté en France, c'est ce problème de la difficulté de mettre en place des projets véritablement interdisciplinaires. En 1984, Yvette Roudy, qui est ministre aux droits des femmes, insiste et obtient la possibilité de créer 4 postes fléchés femmes, féminisme à l'université en France.
C'était quelle année ?
1984. Le premier, c'est Rennes en droit privé. Le deuxième, c'est Paris 7 en sociologie. Le troisième, Toulouse en histoire. Et le quatrième, c'était Nantes en sciences politiques. Sur ces 4 postes, les 3 premiers ont été pourvus. Le dernier n'a pas été pourvu parce qu'il y a eu une opposition au sein des commissions de spécialistes. Ça a été très compliqué. Et au bout du compte, un poste est passé à la trappe. Et on a l'amorce de ce problème de section CNU, c'est qu'ils ont été créés en fonction des sections. Et donc, si on prend l'exemple de Paris Diderot, qui est celui que je connais quand même le mieux, le CEDREF a rencontré des difficultés parce que au départ il y a eu des historiennes, il y a eu un mélange, mais le CEDREF aujourd'hui il est principalement composé de sociologues. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une forme d'interdisciplinarité, mais cette interdisciplinarité elle est compliquée, ne serait-ce que au niveau des cours, qui va financer les cours, ce n'est pas simple. Et autre problème, c'est que c'est les personnes, les enseignants, les chercheurs concernés ont parfois privilégié leur section CNU au genre. Et on va voir qu'aujourd'hui encore, si on prend l'exemple des études anglophones, c'est plus qu'évident. On se présente comme civilisationniste britannique et on efface le genre. Enfin, j'en reparlerai, j'en reviendrai plus tard, mais c'est un vrai problème français, cette question de discipline. Quelle est ma discipline ? Alors, en 88, il se passe autre chose, c'est qu'il y a une résolution du Parlement européen. Et l'objectif, c'est de développer les études sur les femmes. Et là encore, on a un top-down, c'est-à-dire que le gouvernement va intervenir en France parce qu'il est un peu obligé par l'Europe. Et c'est ce qui donnera naissance à l'ANEF, l'Association nationale des études féministes, en 1989. Et donc ça, c'est un premier réseau qui est très important en France et qui continue de l'être. Au milieu des années 90, suite à la conférence de Pékin, il est décidé qu'il serait bon d'essayer de répertorier les enseignants chercheurs en France qui travaillent sur les femmes et le féminisme. Et ce qu'on peut constater, et je trouve que c'est très intéressant, alors je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez pas bien, mais c'est l'index des disciplines et des domaines qui ont été répertoriés dans cet annuaire. On constate qu'il y a une immense majorité de sociologues. Hein, vous voyez, c'est la majorité sont sociologues. Ensuite, on passe à l'histoire. Et en troisième position, on voit que ce sont les langues. Oui, c'est très net. Donc, si, bien sûr, il y a des recherches dans d'autres disciplines, mais il y a trois disciplines qui dominent. Et on pourrait dire que sociologie et histoire ont une position vraiment écrasante par rapport aux autres. Mais les langues arrivent quand même avec... Alors, ce qu'on note, et j'insiste parce que c'est le milieu des années 90, et le mot genre n'apparaît pas du tout. On cherche le mot genre dans cet index des disciplines et domaines, et il n'y est pas. En revanche, l'ANEF donc, a fait une étude en 2000, donc juste quelques années plus tard, hein, on passe du milieu des années 90 aux années 2000, et là, le genre, donc ça c'est l'index thématique des domaines de recherche des adhérentes de l'ANEF, et vous regardez, en 14, vous avez rapport de genre, et c'est le point où il y a le plus d'entrées. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit bien que si on s'intéresse à la question du mot genre, l'introduction du concept de genre en France, elle apparaît clairement entre les années 90 et 2000. Si on s'appuie sur ces données. En 2000, donc, il y a une nouvelle création aussi, impulsion gouvernementale, c'est la création du RING, Réseau interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre, qui en 2009 devient une fédération. La création en 2004 de l'IEC, c'est-à-dire l'Institut Émilie du Châtelet, pour la région Paris-Île-de-France, avec des subventions importantes puisqu'il y a la possibilité d'offrir des bourses pour des doctorants et doctorantes et postdoctorants, postdoctorantes sur les questions de genre. Il y avait quand même un certain nombre de bourses, organisation de conférences sur le sujet, donc des moyens donnés par la région Paris-Île-de-France. En 2011, il y a un nouveau... Pardon ?
Par la région.
Oui, c'est la région. L'IEC, c'est la région Île-de-France. En 2011, il y a le recensement CNRS des enseignants qui travaillent sur les questions de genre. Et en 2012, a été créé l'Institut du genre. Le premier congrès a eu lieu à Lyon en septembre 2014. Alors, j'ai voulu citer Simone Bonafou et Sabine Fourcade, qui à l'époque, en 2014, étaient directrices générales de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour ce qui concerne Simone Bonafou, et directrice générale de la cohésion sociale, déléguée interministérielle droit des femmes et égalité femmes-hommes au ministère du droit des femmes pour Sabine Fourcade. Et donc elles ont signé, et c'est l'introduction à l'ouvrage « Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche », livre blanc de 2014 de la NEF. Je vous montrerai l'ensemble des travaux qui, depuis les années 1960 en France, se développent dans le champ des études féministes et des études de genre, nourrissent la réflexion politique et l'action publique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d'égalité, de déconstruction des stéréotypes et de lutte contre les discriminations. Donc, je trouve ce qui est une chose intéressante, c'est que là, on a le terme « féministe » qui est clairement souligné, et l'importance de ces recherches pour la réflexion politique. Donc j'ai mis deux ouvrages, et un ouvrage qui concerne l'expérience de Jussieu, mais c'est toute cette histoire dont je me suis beaucoup inspirée pour cette première présentation, « 25 ans d'études féministes, l'expérience de Jussieu ». Donc c'était sous la responsabilité notamment de Françoise Bache, dont je vous ai parlé, donc qui était angliciste à Paris Diderot, et Claude Zedman, qui a été celle qui a obtenu le poste en sociologie à l'université Paris Diderot, les fameux postes d'Yvette Roudy de 1984. Et à droite, un autre document qui est très intéressant pour cette histoire des études sur les femmes, le genre en France. C'est ce livre blanc donc de la NEF, 2014, intitulé « Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche », livre blanc qui est publié à la Dispute.
Pardon, vous pouvez redonner les dates, s'il vous plaît ?
Deux.
Des deux ouvrages.
Alors, 25 ans, ça doit être j'ai pas la date, mais c'était au milieu des années. Ça doit être fin des 2000, début 2000, je pense. Mais je pourrais retrouver les dates. En ce qui concerne le deuxième, le genre dans l'enseignement supérieur, c'est un livre blanc de 2014. Celui du CEDREF, faudrait que je vérifie. Est-ce que je l'ai Je l'ai dans ma bibliographie. En 2001, groupe d'études féministes de l'Université Paris Diderot. Donc c'est l'expérience de Jussieu, c'est 2001. Donc, je voudrais maintenant aborder, si j'ai le temps, dans une deuxième partie, les études sur les femmes et le genre chez les anglicistes. Donc, j'ai commencé, bien sûr, par le Centre d'études féminines et d'études de genre de Vincennes, parce que l'une des plus célèbres anglicistes française est Hélène Cixous, et c'est elle, entre autres, qui a fondé en 1974 le groupe de Vincennes. Et c'est quelqu'un qui, à l'étranger, avec Lucie Rigaray et Hélène Cixous, Rigaray et Kristeva, sont les trois grands noms de ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le féminisme français. Alors, je dis bien que c'est une appellation anglo-saxonne, parce qu'en France, les choses sont perçues très différemment. Mais pour ce qui est les pays anglophones, c'est très clair que ce sont les trois noms du féminisme français.
Donc, pour les pays germaniques, c'est pareil.
Comment ?
Pour les pays germaniques, c'est pareil.
Pour les pays germaniques, c'est pareil.
La réception est aussi intense. Mm. Il y a le même décalage par rapport à la réception en France.
Mm. Oui, c'est intéressant, mais bon, ça c'est aussi, je pense, lié aux publications qui a été traduit quand et enfin. Mais ça a un impact énorme parce que moi, c'est vrai que j'ai découvert le phénomène et quand on me disait, bah, les trois féministes françaises, c'est le féminisme. Ah, il n'y a pas la même perception du tout. Enfin, c'est. Donc voilà, Vincennes, qui est désormais maintenant appelé Paris 8, donc propose la préparation à un diplôme de master genre, genre pensée de la différence, rapport de sexe, et un doctorat en études de genre. Je discutais il y a un peu de temps avec une de mes collègues de Paris 8 qui disait nous sommes toujours confrontés au problème de la section CNU. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un doctorat en études de genre, on va avoir effectivement le tampon études de genre, mais au bout du compte, si on veut intégrer l'université, il faut la discipline. Donc, au bout du compte, on a beau faire un doctorat en études de genre, il faut qu'il soit ciblé sur une discipline au moins. Donc ça c'est le... Alors il y a d'autres masters maintenant qui ont été développés, on a tous entendu parler des masters de Sciences Po qui ont été les premiers à développer en France, qui nous a quand même un petit peu fait sourire, mais c'est vrai qu'il y a eu ils ont développé les études de genre. Alors, je vais faire un retour aussi sur les années 70. En 1970, il y a une conférence qui était très importante en Angleterre, qui a eu lieu à Ruskin College, Oxford. Et c'est la première conférence nationale du mouvement de libération des femmes en Grande-Bretagne. Alors, il va de soi qu'en Grande-Bretagne, le mouvement de libération des femmes, il n'est pas arrivé comme ça en 70, qu'il y a eu... Les années 60 sont bien sûr passées par là, il y a eu beaucoup de choses dans les années 60, mais il y a en quelque sorte une explosion du mouvement qui se... dans la lignée aussi des révoltes des étudiants. À cette première conférence, il y avait personnes comme Sheila Robotham, Judith Mitchell, Anne Oakley, Pat Sale, qui sont, encore aujourd'hui, des grands noms du féminisme britannique, ou du moins de l'histoire du féminisme, des positions. Elles étaient présentes donc, à cette conférence. Et il y avait aussi des personnes de Paris Diderot, notamment Françoise Barré-Ducrot, qui a créé des liens... des liens qui ont duré, qui perdurent, puisque les quatre, Sheila Robotham, Judith Mitchell, Anne Oakley et Pat Sale, ont été, peut-être pas Pat, mais ont été invités à l'IEC dans le cadre des conférences sur 40 ans de féminisme. Et elles sont venues présenter leurs travaux et leurs réflexions sur ces 40 ans de féminisme et comment elles se sont lancées dans l'histoire du féminisme à l'époque. Françoise Bache, qui était de Paris Diderot, a aussi créé des liens avec les États-Unis, notamment avec des personnes comme Carol Smith Rosenberg, Claudia Kunz, Yasmine Ergas, Catherine Stimson. Et les liens perdurent, elles aussi. Carol Smith Rosenberg et Catherine Stimson sont venues, dans le cadre de l'IEC, présenter leurs travaux. Et donc, à l'époque, il y a eu des réunions de recherche, groupe d'écriture, en 78-79 au Moulin d'Andée, qui se trouve en Normandie. Et en 82, à Shaker Mill Farm. Et la question des financements était très importante parce que les Américaines avaient des financements que n'avaient pas du tout les Françaises. Et donc les Américaines ont contribué à ces financements assez massivement. De ces réunions sont sortis deux ouvrages assez importants, Stratégie de femmes en 1984 et Women in Culture and Politics, A Century of Change en 86. Donc ça, c'est un exemple de Paris Diderot, mais c'est vrai qu'il y a eu des collaborations. Les collaborations n'ont pas cessé, en fait, depuis ces années avec ces Américaines. À Bordeaux 3, il y a une équipe de recherche qui s'appelait l'ERCIF, l'équipe de recherche créativité et imaginaire des femmes, donc, qui a été créée donc, plus tard, en 1984, par deux américanistes, Elisabeth Béranger et Ginette Castro. Et leur angle d'approche était d'opter pour une politique pluridisciplinaire, mais au sein des études des humanités. Donc c'était principalement littérature, théâtre et art. Et ce qu'elles écrivent, ce qui a été écrit, non pas par elles, mais par Nicole Ollier sur cette expérience, c'est qu'elles ont eu le soutien de la présidence de l'université. Un soutien très fort de la présidence de l'université à l'époque qui a fait que l'ERCIF était un laboratoire. Et donc, qui dit laboratoire, dit finance. Donc, il y avait une autonomie financière quant à leur choix scientifique qui était non négligeable. Aujourd'hui, le laboratoire n'existe plus. Il est une des six composantes qui constituent le laboratoire Claire. On est toujours dans des fusions, dans des grands laboratoires. Donc, ce n'est plus qu'une des composantes.
La visibilité est moins.
Comment ?
Du coup, la visibilité est moindre. Pas forcément. Parce que...
Pas forcément, elle peut. Là, c'est. C'est ce que je vais essayer de développer par la suite, c'est que la visibilité des études sur les femmes et le genre, elle dépend énormément des individus, des personnes. Mmh. Et donc, c'est des choses qui peuvent fluctuer. Et il suffit qu'une enseignante parte à la retraite et des choses disparaissent. C'est notamment le cas de Résonance à Paris 8. Donc, s'il n'y a pas une équipe forte derrière, il y a des choses qui disparaissent. Et je voulais revenir sur Bordeaux 3, parce que j'ai trouvé que cette citation était très intéressante et elle montre bien qu'il y a de grosses divergences en ce qui concerne les points de vue. Donc Nicole Ollier écrit en 2003 « Passion, engagement, conscience sociale n'ont jamais signifié véhémence pour ces femmes posées, courtoises et modérées. » L'agressivité, l'outrance, la paranoïa parfois qui ont pu caractériser certains comportements féministes outre-Atlantique n'ont nullement contaminé les chercheurs de Bordeaux 3. Donc on voit bien que quand je vous disais que les termes féminines, féministes avaient une certaine importance, c'est un exemple. Donc, à Paris 8, il y a eu aussi Martine Spensky, qui est une angliciste qui a fait des choses sur Paris 8, qui ensuite a été professeur à Clermont-Ferrand. Et donc, il y a eu les cahiers d'ancrage qui ont participé avec État et rapports sociaux de sexe. On est en 91, mais on est encore dans rapports sociaux de sexe. On a une approche sociologique, mais ce n'est pas l'approche genre, puisqu'on utilise encore le terme rapports sociaux de sexe. Il y en a encore qui utilisent le terme, d'ailleurs. Ce n'est pas un terme qui a complètement disparu. Donc oui, voilà, je voulais parler de Claude Cohen-Saphir, qui, en 1989, a fondé Résonance Femmes et la revue Résonance. Et lorsqu'elle est partie à la retraite, c'était elle le moteur de Résonance, lorsqu'elle est partie à la retraite, l'université n'était plus d'accord pour abriter le site Résonance. Et donc, c'est elle qui a continué. Le site a été déplacé à titre privé, mais je suis allée sur le site récemment et malheureusement, sans le soutien institutionnel de l'université, eh bien, les choses tendent à disparaître lentement, mais sûrement. Alors, je voudrais faire un petit point sur la SAES, toujours sur ces questions. J'ai fait une enquête auprès de la SAES, une enquête que j'ai... Pardon, excusez-moi, la SAES, c'est la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur. Alors, il y a plusieurs sociétés qui regroupent des anglicistes. Il y a l'AFEA qui concerne principalement les américanistes, donc qui n'est pas prise en compte là. Donc tous les anglicistes ne sont pas pris en compte par la SAES, mais la SAES compte en 2013 2305 membres. Donc c'est quand même une grosse association d'universitaires. Sur les 2305, j'ai vérifié, seuls 20 mentionnent les femmes ou le genre comme domaine de recherche. Ça fait vraiment très très peu. Mais donc cela s'explique. On parle des disciplines, mais c'est au sein d'une discipline. Les disciplines sont aussi très très limitées. Alors, je pense que c'est lié au concours. Mais lorsqu'on est angliciste, on a trois options possibles. Soit on est en littérature. Littérature, on a en gros deux choix, voire trois. On est soit littérature américaine, littérature britannique, ou un peu Commonwealth, postcolonial. Et puis, on passe à la civilisation. Et là, encore, on a les deux gros blocs qui sont civilisation britannique, civilisation américaine. Et puis après, on a effectivement aussi le Commonwealth, Afrique du Sud, Canada, mais c'est vraiment minoritaire. On en discutait hier, si on travaille sur le Canada, si on travaille sur l'Afrique du Sud, on est en civilisation britannique. Donc les choses sont... C'est à peine caricaturé hein, ce que je dis, à peine. Honnêtement, ça ne l'est pas du tout, Dimar. Donc... il y a autre chose, c'est que lorsqu'on fait donc les études anglophones sont dominées, mais alors totalement dominées par la préparation au concours. Donc ils souffrent. Là, on sent qu'il y a une différence qui s'opère depuis les nouveaux CAPES qui ne sont plus des mini agrègues. Mais jusqu'il y a encore quelques années, le programme du CAPES et de l'agrégation était identique, sauf que pour l'agrégation, il y avait plus à faire que pour le CAPES. Et donc, les enseignants-chercheurs en anglais LLCE, du moins les spécialistes d'anglais, avaient tendance à travailler uniquement pour les concours. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les choix des sujets à travailler, il y a eu très peu sur les femmes et le genre. On a deux exceptions notables. En 1987, Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, est au programme. Et en 1995, il y a eu Feminism in the US from 1848 to 1875. Donc la naissance du mouvement féministe aux États-Unis à partir de 88, Déclaration des Sentiments, et Wollstonecraft. Mais sinon, il y a de temps en temps des auteurs sont présentés au programme, mais l'angle n'est pas un angle qui sera féminisme ou genre. Et donc, les collègues, lorsqu'ils veulent se présenter dans des universités ou il se présente comme spécialiste de civilisation britannique, spécialiste de civilisation, mais le genre est occulté. Alors je pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est que le genre est un mauvais genre. Et ce n'est pas toujours bien vu de travailler sur ces questions. Ça ne l'était pas, parce que, comme pour d'autres disciplines, les travaux sur les femmes et le genre sont souvent perçus comme pas sérieux, relevant du militantisme, et donc un certain nombre de collègues ne cherchent pas à afficher leur recherche sur ces travaux. En tant que présidente de la SAGEF, j'ai écrit aux membres de la SAGEF, on a une liste d'environ 100 enseignants-chercheurs, et un certain nombre ont répondu à ma question, comment se fait-il que vous ne précisiez pas dans l'annuaire de la SAES que vous travaillez sur les questions de femmes, genre. Et un certain nombre ont répondu, mais j'y avais pas pensé. Ça ne m'avait. Non, mais j'ai comme exemple, j'avais comme exemple quelqu'un comme Françoise Barré-Ducrot qui a travaillé que sur le féminisme et le genre. Elle est en histoire de la civilisation britannique. Mais c'est pas. Bon, alors elle a rempli ça il y a des années et elle s'est pas occupée de mettre à jour. Mais. Les choses sont claires, on ne dit pas. Mais je sais que d'autres enseignants-chercheurs en anglais qui m'ont dit, mais c'est vrai que quand j'ai rempli, je n'avais pas cette possibilité. Depuis, je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé. Donc ça, on avait un peu alerté lorsqu'on avait fait cette recherche. Et puis, je disais que les anglicistes avaient quand même des réticences par rapport aux études sur les femmes et le genre, quelque chose de pas sérieux, c'est que le discours, on est spécialiste du poète Robert Browning, et c'est quand même drôlement bien d'être spécialiste du poète Robert Browning, parce que là, on est très très fort sur Robert Browning, mais les études de genre, c'est quand même pas trop spécifique. Alors, on a le spécialiste d'eux et quelqu'un qui travaille sur quelque chose de trop spécifique. Quand on sait que les études de genre, c'est quand même par définition des études interdisciplinaires, ça porte à sourire, mais il n'empêche. Alors, j'ai fait une autre enquête parmi les anglicistes. Alors, cette enquête vaut ce qu'elle vaut, parce que je n'ai que les résultats de ceux qui ont répondu à mes emails via un appel SAES et AFEA, donc l'association des anglicistes plutôt britannicistes et des anglicistes plutôt américanistes. Et le retour, c'est qu'il y a 17 groupes de recherche actuellement au sein de 17 universités qui travaillent sur ces questions. Il y a plusieurs associations, donc il y a l'International Vernon Lee Society qui est basée plutôt à La Réunion, enfin elle est basée à Paris de Drôme, mais c'est plutôt La Réunion avec Sophie Geoffroy. Résonance Femmes, donc c'est Claude Saphir, mais il y a de grosses difficultés, donc la SAGEF dont nous avons parlé. Il y a aussi la Société d'études Wolfienne, mais qui travaille sur Wolf, mais qui n'est pas nécessairement centré sur les femmes, mais il y a des choses quand même qui s'y passent. Il y a NIAMA, l'association indiano-océanique pour le rayonnement et le développement des études de genre, qui se trouve à l'île de La Réunion. Et puis on a en gros deux collections, des idées des femmes, l'Armatan, donc dirigée par Guyon Leduc, qui est angliciste et enseigne à l'île 3. Guyon avait obtenu la création du premier poste fléché genre MCF anglais. Malheureusement, la personne qui a obtenu le poste travaille très peu sur les femmes et le genre, donc ce qui est vraiment, enfin, à mon sens, très regrettable, puisqu'on avait obtenu une première avancée et que ben là, il y a des reculades finalement à l'île 3 sur les questions de genre. Et la deuxième collection, c'est les fondamentaux du féminisme anglo-saxon, qui est dirigée par Frédéric Regard, qui maintenant est à Paris 4. Alors bon, en tant que présidente de la société anglophone sur le genre et les femmes, je veux quand même faire un petit peu de publicité. Donc c'est une société qu'on a fondée en 2011 avec Françoise Barry-Ducrot, donc moi-même et Guyane Leduc. Et en 2010, en fait, on a voulu créer le premier atelier femmes, sexe, genre au sein de la SAES, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une vingtaine de sociétés affiliées à la SAES et pas une seule sur les femmes et le genre. Donc on a dit, bon, on va commencer par un atelier. Notre premier atelier a rencontré un vif succès et on s'est dit, bon, il faut qu'on crée une association. Et on a choisi l'option loi 1901 parce que là, on est autonome et qu'on a les moyens de nous financer, parce qu'on a une adhésion et ensuite on peut recevoir aussi de l'argent. Donc on a une certaine liberté. Et donc là, notre bilan pour 2011 et 2015, je pense que c'est un bilan dont on n'a pas à rougir. On a organisé un colloque féminisme du 21e siècle, 10 journées d'études. On a participé à 5 ateliers SAES, 2 ateliers essais. Et pour l'instant, on a 4 ouvrages, mais on en a encore 2 sous le coude, dont un que co-dirige Marc. En ce qui concerne l'essai, c'est the European Society for the Study of English. Donc c'est une super SAES, en quelque sorte, puisque c'est au niveau européen. Et il y a un congrès tous les 2 ans, un congrès d'anglicistes. Et nous sommes en train de créer avec Renate Haas, qui est donc germaniste, un network, un réseau sur les femmes et le genre au niveau européen, mais concernant les anglicistes. Et donc, ce que je viens de vous présenter, c'est principalement un article que j'ai écrit pour l'ouvrage que vous voyez projeté, Rewriting Academia, et où on présente les études sur les femmes et le genre en Europe. Et donc, il y a, je ne sais plus exactement combien d'articles, mais sur tous les différents pays européens, comment se présente la question des études de genre. Et donc, nous allons nous retrouver lors du congrès de l'essai qui a lieu à Galway cette année, fin août. Et nous avons une table ronde donc, pour essayer de consolider le travail sur les femmes et le genre au niveau donc, européen. Nous avons d'ores et déjà obtenu une visibilité en ligne sur le site de l'essai. On a ce qu'on appelle notre corner, le coin femmes-genre au sein de l'essai. Et on espère développer un réseau actif et, sur ces questions. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je vous remercie.
Merci.